Radio Grand Ciel, guten Tag, bonjour. À microphone Michel Giroux, à la technique Simon Martin.
Ich bin nicht hier wegen Mama, nicht hier wegen Papa und nicht wegen Onkel Udo bin ich hier. Der Bürgermeister von Berlin, Prinzessin Caroline, sind nicht der Grund, warum ich heute hier erschien. Sieh da der Jauch.
Willkommen, bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Grand Ciel. Vous écoutez Die Deutschen, une émission de Michel Giroux. Aujourd'hui, haben wir einen Gast. Nous avons un invité.
Mon nom, c'est Achim Holzenberger. Plus allemand, il n'y a pas. Achim Holzenberger, et je suis le porte-parole ou le chef du service de presse de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Et avant que vous demandiez, je suis en fonction depuis août dernier, donc ça fait presque une année, mais une année marquée beaucoup par le Covid. Donc, je n'ai pas vu beaucoup à l'extérieur de mon bureau, où j'y suis actuellement aussi.
Donc, peut-être que dès que la situation sera meilleure, vous pourriez peut-être venir nous voir à Chartres, dans nos studios. Ou bien dans l'école.
Ça sera une bonne idée.
Bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du retour à la vie normale en Allemagne ? Est-ce que de nouveau, on peut sortir sans le masque, par exemple ?
Dites, en Allemagne, ça se passe un peu différemment comme en France, mais en parallèle. Je vous explique. En France, on a donné des dates sur lesquelles quelque chose allait se faire. Donc, on avait un calendrier qu'on savait, c'est le 9 mai, le 15 juin, et le 31, le 1er juillet. Donc, on a des dates très fixes. En Allemagne, on avait pris une approche différente. On avait dit, bon, une fois que l'incidence de l'infection sera moins que tel nombre, les libertés suivantes pourront s'effectuer. Dans chaque département ou Landkreis différent. Ce qui fait qu'en Allemagne, on ne savait pas exactement quand ça allait venir, mais on savait à partir de quel taux d'infection on pouvait s'attendre à des allègements. Donc, c'est un peu la réponse à votre question. C'est légèrement différent selon la région où vous vous trouvez en Allemagne.
Je suppose que vous avez regardé le match de foot ?
Ben oui, je l'ai regardé, bien sûr, donc... Vous n'allez pas croire que je suis fou de joie, mais certainement pas. J'aurais aimé que l'équipe allemande gagne. Mais je reconnais quand même que l'équipe française, bon, elle était meilleure. Il y avait quand même deux buts qui ne comptaient pas parce que c'était des comment est-ce qu'on appelle ça en français ? Des upsides.
Des hors-jeux. Voilà.
Des hors-jeux. Voilà, c'était des hors-jeux. Et c'était sur la caméra qu'on voyait que c'était juste à peine. C'était pas beaucoup.
Alors, comment est-ce qu'on appelle un hors-jeu en allemand ?
C'est Abseits.
Abseits. D'accord.
Et donc voilà, je l'ai vu, j'étais un peu triste pour l'équipe allemande, mais c'était un bon match. Et donc, c'est pour ça que je regarde, quoi.
Moi, j'ai eu l'impression que les deux équipes étaient bien ensemble, si on peut dire, dans un match, mais qu'elles se complétaient bien. J'ai aimé ce que j'ai vu.
C'est bien. Alors, on a réjoui les deux. C'est match, c'est bien. À voir comment ça se développe, l'euro. Nous, on le met sur le site Twitter de l'ambassadeur. On met toujours un petit film juste avant le prochain match. Donc,
d'accord.
Probablement demain, il y aura quelque chose sur le Portugal.
Très bien. Et puisqu'avec le match franco entre la France et l'Allemagne, on rejouait un peu l'amitié franco-allemande en se taquinant. Elle en est où, l'amitié allemande ?
Bon, franco-allemande, franchement, l'amitié franco-allemande, pour moi, c'est vraiment très, très bien. Et il me faudrait beaucoup de temps pour expliquer pourquoi.
Oui.
Donc, juste en très court,
oui.
C'était la traité d'Aix-la-Chapelle il y a 2 ans entre Merkel et Macron qui a vraiment donné un boost parce qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait faire dans des terrains différents, le transfrontalier, la politique européenne, la coopération de sécurité, les nouvelles initiatives pour les citoyens. Tout ça, c'était d'abord au début que du papier, mais il y avait des projets concrets.
D'accord.
Et on a commencé de travailler là-dessus. Je peux vous le dire parce qu'à l'époque, j'étais responsable pour les relations transfrontalière entre la France et l'Allemagne, donc je sais combien on a fait. Là, par exemple, on avait créé un comité qui se prouvait hautement utile pendant la crise sanitaire, parce qu'on avait des échanges rapides. Au début, ce n'était pas encore fonctionnel, et vous avez vu qu'il y avait des problèmes, mais maintenant, avec la deuxième et la troisième vague, ça a bien marché. Autre chose qui est très bien, je ne vous parle pas de toutes les relations entre fonctionnaires, parce que là, vraiment, on a un réseau aussi dense que l'Allemagne n'a avec aucun autre pays. Donc là, c'est bien. Mais pour les citoyens, qu'est-ce qui se voit? Et là, je trouve que ce traité, il a donné des nouvelles initiatives, comme par exemple le Fonds citoyen, où chaque personne, chaque groupe peut demander, avec un bon projet, du soutien. C'est-à-dire un financement pour démarrer. Et c'est justement pour les petits projets, pour les gens qui n'ont pas toute une institution derrière.
Alors, il faut s'adresser à qui ?
Sur le site web, regardez Fonds citoyen franco-allemand, vous allez trouver le lien. Le lien va vous rendre au Office franco-allemand de la jeunesse, le OFAGE. Oui. Et bien, tout le reste, c'est sur le site web. Ça, c'est quelque chose, par exemple, pour moi, c'est bien. Bon, ça fait qu'une année que c'est en vigueur, donc forcément, ce n'est pas encore très connu, mais c'est quelque chose du concret, du spécifique pour des gens qui ne sont pas déjà impliqués dans quelque chose. D'accord. Je trouve que ça vaut le coup.
Donc, il y a des choses
et ça, c'est
avancent.
Quelque chose de très bien dans les relations franco-allemandes, qu'on arrive à faire des projets pareils.
Oui.
Et j'allais dire que peut-être pour nos auditeurs, c'est plus près à leur réalité quotidienne que des rencontres Merkel-Macron.
Alors, puisqu'on parle d'Angela Merkel, on pourrait peut-être parler un petit peu des futures élections, parce qu'il va y avoir des changements en Allemagne bientôt.
Oui, mais à savoir que presque tous les gens qui ont moins de 20 ans dans leur vie active, ils n'ont pas connu une autre chancelière qu'Angela Merkel.
C'est vrai.
Et elle va s'arrêter, ça c'est clair. Donc, il y aura des élections en Allemagne fin septembre et on verra qui va la succéder. Il y a trois candidats à la chancellerie. Il y a M. Laschet, c'est d'ailleurs le plénipotentiaire, c'est un mot difficile pour moi, plénipotentiaire des relations culturelles et éducation entre la France et l'Allemagne. Donc déjà quelqu'un qui a beaucoup de choses avec la France. Et l'Allemagne, oui, tu sais très bien qu'il a cette fonction, c'est un président-ministre du Nord-Westphalie. D'accord. Et régulièrement, c'est un président-ministre d'un land qui tient cette position, parce que l'éducation et la culture en Allemagne, ce n'est pas une affaire de l'État fédéral, c'est quelque chose qui se fait dans les Landes, donc décentralisé, comme si en France, les régions étaient responsables de ça.
J'ai déjà entendu son nom, parce que notre école a un échange avec une ville du Nord-Rhein-Westphalen. Neheim, donc la ville natale de Franz Stock.
D'accord, non mais effectivement, c'est dans le Nord-Westphalie. Bon, lui, c'est un candidat. L'autre candidate, c'est Annalena Baerbock.
Oui.
Annalena Baerbock, elle est candidate pour les Verts. Mm-hmm. Donc les Verts qui, actuellement, ont fait beaucoup de progrès dans les sondages par rapport aux élections il y a 4 ans. Bon, ça oscille. Hein. À mon avis, de toute manière, c'est trop tôt pour dire qui va gagner, qui va être le chancelier. Et troisième candidat, c'est Olaf Scholz, du Parti social-démocrate. Lui, il est notre ministre actuel, le ministre de la Finance.
D'accord. Alors, les électeurs allemands ne vont pas voter pour eux, en réalité?
Non, parce que le système, effectivement, vous avez raison de dire ça, parce que le système allemand de vote, c'est différent. En France, vous votez pour une personne dans les présidentielles. Donc, c'est individuel de la présentation. En Allemagne, ce que les Allemands voteront au mois de septembre, c'est pour le Bundestag, c'est l'Assemblée nationale, donc le Parlement. Et selon les forces des partis représentés dans le Bundestag, ces partis vont négocier un programme de coalition et vont se mettre d'accord sur un chancelier, une chancelière.
D'accord.
Donc, en Allemagne, du coup, les partis ont un rôle beaucoup plus important qu'en France. C'est effectivement eux et leur programme qui sont la base pour les citoyens lors de leur vote. Mais bien sûr, on sait très bien qui est candidat et donc ça joue aussi.
Et est-ce qu'Angela Merkel, forcément, elle va laisser un héritage?
Ben oui, elle va laisser un héritage. Comment le dire? Je crois que le bilan, c'est plutôt positif. Mm-hmm. Parce que lors de la période où elle était chancelière, elle a dû gérer quand même des crises majeures où il n'y avait pas d'exemple, de ligne de conduite à suivre. C'est, je parle de la crise financière qui a presque mis l'Europe financière à un point de chute, là, vous vous rappelez, avec la Grèce qui n'avait plus moyen de payer ses propres dettes. Ça, c'était une crise où on ne savait au début pas comment agir. Deuxième, c'était la crise de migration de 2015 et la crise de Covid récemment, et j'en passe d'autres, parce qu'il y avait... avec, par exemple, l'accident de la centrale nucléaire à Fukushima, c'est pour les Allemands, c'était le moment de définitivement renoncer à l'énergie nucléaire. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qui, elle a dû gérer pendant son temps. Et je trouve qu'elle a plutôt bien géré ces défis qu'il y avait. Donc, ce qui va rester d'elle, c'est quelqu'un qui a vraiment su, comment dire... manager, c'est pas un mot français, des crises, c'est quelqu'un qui a su forger des consensus, ou moins des coalitions, quand il s'agissait d'agir à plusieurs, dans le cadre européen, c'est par exemple, c'est très intéressant, très important, et c'est quelqu'un qui était à l'écoute des autres, parce que je suis sûr que c'est ce que le président Macron a fait avec son discours de la Sorbonne, là, ça a impressionné quand même. Bon, Angela Merkel, elle ne pouvait pas répondre tout de suite parce que c'était en pleine période de négociation de coalition de gouvernement en Allemagne. Mmh. Alors, elle n'avait pas un mandat sur lequel elle pouvait parler. Donc, il fallait attendre.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces informations sur l'Allemagne. Je pense qu'on en avait besoin d'entendre certaines choses. Et notre émission s'achève. Et je vous propose d'écouter la musique que vous nous avez proposée, qui est de...
Ben, c'est Vladimir Korneyev, je sais, c'est pas très allemand comme nom, mais il est allemand. Et j'aimerais bien vous dire que j'étais dans une petite chapeau, un cabaret à Berlin, Barrier d'Afanumf, juste avant de venir à Paris l'année dernière, et j'ai entendu Vladimir Korneyev chanter. Il chante d'ailleurs pas seulement en allemand, il chante en allemand, en français, en anglais, en russe, et probablement j'en passe d'autres langues, et il a une voix. J'étais tellement émerveillé que je me disais, ben ça c'est quelque chose, même si on ne comprend pas les paroles, on comprend que c'est un grand chanteur.
Eh bien merci monsieur, merci pour ce moment passé avec vous, et puis j'espère qu'on pourra recommencer très vite, et que vous viendrez nous voir.
Ben vous savez où vous trouvez.
Très bien, tchuss.
Mein Herz ist eine Höhle, dort zieh ich dich hinein. Die Laute meiner Kehle zerschmelzen deinen Stein. Aus Tiefen drängt Gegröhle, dann mach ich dich zu meinem. Im Echo alter Säle wird mein Schrei zu dein. Unter dem Gegröhle, das aus der Höhle dringt, Gejubel und Gestöhne, das in die Sonne sinkt. Zerreißen wir die Felle der Zivilisation. Ich küss dein Fleisch, das helle, wo deine Liebe wohnt. Zerlegt bis in die Glieder, mein Dampf küsst dein Gesicht, erkennen wir uns wieder ohne die Außenschicht. Wir sind vor jeder Sprache, deine Laut durchzuckt das Licht im Schatten dieser Brache. Laut mal ich dein Gesicht. Im Dunkel meiner Höhle
hast du mein Herz verspeist. Im Schatten meiner Seele hielt ich es gut geeist. Lass krachend es dir munden, auch deins pulst mir im Bauch. Oh, reiß mir auf die Wunden und leg dich mir.